La main verte à présent. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Jérôme, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Tout va bien ce matin?
Moyennement.
Qu'est-ce qui m'a pris hier?
Je vous parle de lutin dans les Alpes.
Ouais.
Je fais preuve de légèreté. Moralité, au lieu de vous dire qu'il ne fallait pas confondre ail des ours et oxalis, j'ai dit exactement le contraire.
Oui, vous avez dit que l'oxalis c'était l'ail des ours.
Oui, grave erreur, mais quantité d'auditeurs qui écoutent attentivement
m'ont fait
le reproche. Ah. Donc bien entendu, mea culpa, toutes mes excuses. L'ail des ours est une plante, l'oxalis en est une autre. Je voulais absolument
bon,
corriger cette erreur.
C'est rectifié. On parle de mousse ce matin, celle qu'on trouve au pied des arbres, hein, pas dans les bars, ne confondons pas. Les mousses sont appréciées, Alain, pendant les fêtes de fin d'année.
Et oui, appréciées principalement par les maquettistes et les amateurs de bonsaï qui savent les mettre en valeur pour constituer des paysages et par celles et ceux qui composent des compositions, enfin, qui composent des décorations florales.
Je vais relire
en plus. Je ne suis pas convaincu que cette passion pour les mousses est la même chez les amoureux du gazon anglais. Ça, c'est un autre sujet. Alors, sachez, Jérôme, qu'il existe une gigantesque diversité de mousses. 13 000 espèces, d'après les scientifiques, c'est considérable. Et l'on en trouve un peu partout, au pied des arbres, sur les dallages, les rochers, et parfois même sur les toitures.
Alors, ces mousses apparaissent comme des plantes assez mystérieuses quand même.
Et oui, elles ne possèdent pas de racines, et pour se nourrir, elles absorbent l'eau par les tiges et les feuilles.
Mmh.
Elles ne fleurissent pas non plus, ce qui signifie qu'elles ne portent pas de graines. Pour se reproduire, certaines espèces de mousses pratiquent ce que l'on appelle la fragmentation de la tige, une tige qui va alors produire une nouvelle mousse. Alors, cette manière de faire est qualifiée d'asexuée et j'ai, vous vous en doutez, simplifié mais vraiment au maximum.
Alors, en l'absence d'eau, les mousses semblent mourir, mais dès qu'il pleut un tout petit peu, pouf, ça repart immédiatement.
Oui, elles peuvent même ressusciter, je dis bien ressusciter, vous verrez que je n'exagère pas. En 2014, une équipe de chercheurs a découvert une mousse vieille de 1500 ans à 110 mètres sous la glace en Antarctique. 55 jours seulement après avoir été dégelé puis humidifié, notre mousse s'est réveillée et a repris sa croissance. Vous imaginez?
Après 1500 ans de sommeil.
Même la belle au bois dormant à côté, c'est de la rigolade.
J'allais le dire, ça pourrait marcher sur moi, ça ou pas?
Alain, les auditeurs ne font pas que vous tirer les oreilles, ils vous écrivent aussi,
oui,
vous posent vos questions.
Oui, c'est heureux.
Denis qui vous pose cette question. Pouvez-vous me dire si une branche de frêne victime de fasciation, alors vous allez nous dire ce que c'est que la fasciation, est-ce que cette branche de frêne peut résister dans le temps et donner une allure intéressante à un arbre sans jouer sur la circulation de la sève?
C'est très compliqué. En botanique, on parle également de crustation. C'est tout simplement les tiges qui, au lieu d'être cylindriques, s'aplatissent et, à l'extrémité de la cime, forment comme une crête. En fait, elles se développent de manière anormale. Pour faire un peu simple, on parle souvent des arbres têtards. Vous savez, ce sont ces saules que l'on taille à l'extrémité et qui font comme des têtes de chat qui font des petits rejets.
Mm-hmm.
C'est à peu près l'esprit. Donc la plante n'en souffre pas, mais ce n'est pas très joli. Certains collectionneurs trouvent ça merveilleux, peut-être, mais il est vrai que la sève ne circule pas normalement dans ce micmac de bois qu'elle va ainsi fabriquer.
Donc qu'est-ce qu'on fait?
Le mieux c'est quand même
de le couper,
parce que de temps en temps, c'est un peu comme les cheveux, de temps en temps un petit coup de peigne et une petite coupe, ça fait pas de mal non plus.
Michel vous pose cette question. Pourquoi se compliquer la vie à créer du compost? On pourrait peut-être disperser directement à même le sol les épluchures des fruits, des légumes dans notre jardin ou bien lors de nos promenades en forêt.
Ce serait sympa, reconnaissez-le, vous allez en forêt de Fontainebleau, vous allez à droite des oranges, à gauche des pots de bananes. Quantité de petites vermines comme des rats qui viendraient s'en délecter. Non, bien sûr que non. On ne met pas tous les détritus par terre. Il faut les mettre au même endroit pour éviter d'en les dire. Car même quand un produit est naturel, il peut être laid, il peut être disgracieux, il peut même être dangereux. Il n'y a pas plus sain qu'une omelette d'amanite phalloïde. Et pourtant, je vous garantis que les résultats sont catastrophiques.
Donc faites du compost.
Et respectez la nature.
Michel, encore un autre Michel. En 2008, j'ai remis en terre un sapin de Noël. À 10 mètres de ma maison, il culmine actuellement à 6 mètres. Où en sera-t-il dans 20 ou 30 ans?
Si il vit encore 130 ans, il pourra atteindre la hauteur de 66,60 m. C'est la hauteur du plus grand sapin de France, qui vit très exactement sur la commune de Chartrain à Renaison, c'est dans le Loiret. Il a été planté en 1892, près d'un barrage, et il vit toujours 66,60 m, c'est le record du monde.
Mais ça veut dire qu'il faut éloigner cet arbre-là des maisons, quoi.
Alors, il faut toujours, quand on plante un végétal, se rappeler que le temps passe vite et respecter les distances. Mais 10 mètres, c'est quand même même pas mal. Le sapin est un arbre qui ne se développe pas en épaisseur, mais qui se développe en hauteur. Alors avant qu'il atteigne les 53 mètres de hauteur et surtout les 5,30 mètres de circonférence que le président, c'est un arbre qui est mort, et il a dû être coupé, il vivait dans le Doubs et c'était le plus gros sapin Noël. Il y a encore de la marge, mais il est vrai qu'un sapin Noël à 10 mètres ne présente pas de danger pour une maison. Mais le planter à 15 mètres, c'est quand même mieux.
Voilà, donc vous pouvez replanter vos sapins de Noël. Avant de vous quitter...
Vous devez.
Vous devez, absolument. Avant de vous quitter, Alain, petit conseil du dimanche matin.
Oui. Arbres et arbustes, c'est un ouvrage tout simplement, c'est un guide botanique publié par Horticolor. C'est pas un truc qu'on emmène dans le métro ou dans les avions pour se délecter, c'est vraiment un ouvrage sérieux qui permet eh bien, de se faire une idée sur 2400 variétés de plantes, 2500 photographies, collection guide des végétaux publiée par Horticolor.
Merci pour ce conseil, la main verte d'Alain Baraton.